Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un hors-série de nouveaux chapitres. Il s'agit de la captation d'un live Instagram réalisé par la philosophe Marie Robert sur le compte de Jolie Bump. Ce live a eu lieu pendant la période de confinement que nous avons connue dans le cadre de la crise de Covid-19. L'idée était en fait de saisir l'opportunité que représentait cette période pour prendre le temps de réfléchir, faire un pas de côté, comme le dit si bien Marie, et mettre en perspective philosophie et maternité. Je remercie infiniment Marie, que vous pouvez retrouver sous le compte Instagram @philosophiesexy, pour ce contenu si riche et éclairant. Le sujet du live qui va suivre est celui de l'instinct maternel. Je vous souhaite une très belle écoute.
Bonjour tout le monde. C'est un vrai bonheur que ces rendez-vous autour d'une petite philosophie de la maternité. C'est extrêmement précieux et je remercie beaucoup, beaucoup Marie et Jolie Bump de m'avoir permis justement d'évoquer ces sujets, de les aborder. Rebonjour effectivement à certains qui me suivent un peu partout. Alors j'attends encore quelques secondes. En attendant, je vais rapidement me présenter, même si pour la plupart, vous me connaissez peut-être déjà. Moi, je m'appelle Marie. J'ai plusieurs casquettes, alors je sais, souvent je m'exprime d'ailleurs avec un peu toutes et avec la même perspective. La première, c'est d'être professeure de philosophie, à la fois à la fac et au lycée, mais je suis également créatrice d'école Montessori. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont adressé des messages au sujet de la pédagogie Montessori. Si vous souhaitez, je pourrais faire une intervention spécifique sur cette question-là. Et notamment la pédagogie Montessori dès le plus jeune âge, puisque dès 0-3 ans, on peut mettre en place des choses et réaménager l'espace. Donc ça, j'en serais ravie. Donc voilà, je suis aussi créatrice d'école Montessori. Et puis ma troisième casquette, c'est que je suis auteure de philosophie, mais à chaque fois avec la même perspective. C'est-à-dire que ce soit dans les écoles, que ce soit à la fac, que ce soit dans les livres, que ce soit ici, c'est de dire que la philosophie est accessible. Qu'à chaque fois, on accepte de faire un pas de côté, d'interroger ce qui nous semble évident, ce qui nous semble naturel, ce qui nous semble habituel, pour au contraire aller le... J'aime bien l'expression « aller le déplier », aller véritablement le décortiquer. Eh bien, on est déjà en train de faire de la philo. Ça ne nous demande pas d'être expert, ça ne nous demande pas de faire une disserte, ça ne nous demande pas de dire des trucs jargonnants et compliqués. Non, ça nous demande juste d'aller regarder ce qui semble être une évidence, mais qui en fait n'en est peut-être absolument pas une. Donc voilà, c'est avec cet élan et avec cette perspective que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que s'il y a bien un domaine où plus que jamais on a une tendance à employer des expressions toutes faites, à trouver ça pleinement naturel, à considérer que c'est un grand cycle de la vie et que c'est comme ça, qu'il n'y a pas besoin d'interroger, c'est bien la question de la maternité. Donc ça fait plusieurs semaines que sur l'invitation, ça fait plusieurs rendez-vous que sur l'invitation de Marie, donc de Jolie Bump, j'ai eu la chance d'échanger avec vous autour de ces questions. À travers Jolie Bump, je crois que Marie veut non seulement effectivement proposer aux femmes d'être jolies, de se sentir pleinement épanouies dans leur maternité, mais ce pleinement épanoui, et à travers les vêtements qui sont loin aussi d'être anodins, c'est aussi reprendre possession de sa grossesse. C'est ne pas considérer que la grossesse appartient aux autres, appartient à la famille, appartient à tout le monde ou appartient à la société, qui a toujours quelque chose à dire sur la grossesse d'ailleurs des femmes, où tout d'un coup, qu'à partir du moment où on est enceinte, il y a une espèce où la place de la femme devient presque publique, son utérus devient presque public. Non, au contraire, l'invitation de Marie dans Jolibum, c'est aussi reprendre possession. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce corps que j'ai ? Et en quoi il m'appartient ? Et en quoi il m'appartient à moi et pas aux autres ? Et en quoi cette aventure est purement singulière, purement, vraiment totalement personnelle ? Donc c'est vraiment cette invitation-là. Et en choisissant les différents sujets et puis en vous interrogeant un peu autour d'eux, il y a un sujet qui nous est tout de suite venu, c'est la question de l'instinct maternel. Alors vous n'avez pas idée à quel point l'instinct maternel, quand on travaille un peu en philosophie, en anthropologie, moi j'ai un peu cette double formation, l'instinct maternel c'est pire qu'une image d'épinal, c'est-à-dire que c'est un champ de bataille. Tout le monde en parle, tout le monde a envie. C'est comme si le sujet d'ailleurs de la maternité était une des voies, une des portes d'entrée quand on fait de la philosophie de la maternité, c'est soit la conception, donc beaucoup autour de théories, d'approches autour de la conception. L'autre porte d'entrée, c'est l'instinct maternel. Et tout le monde y va, et tout le monde donne son avis, et tout le monde participe à ça. Donc je vais essayer, dans notre petite parenthèse, dans notre petite bulle, de vous faire un panorama. Et comme d'habitude, l'idée, c'est pas tant d'être d'accord ou pas d'accord. L'idée, c'est de trouver un espace qui résonne en nous. Il n'y a pas d'autre perspective que ça. Trouver ce qui résonne, ce qui fait sens pour nous. C'est ça la philo, c'est se réancrer, se situer, permettre vraiment d'être là, ici et maintenant, et de se dire « Ah ok, en fait moi, mon chemin, c'est ça, et ça n'appartient à aucun autre. » Donc voilà un petit peu l'idée du jour. C'est donc parti, j'espère que vous êtes bien installés, tranquilles, posés, et c'est donc parti pour une petite réflexion sur l'instinct maternel. Alors effectivement, déjà situons le contexte. Qu'est-ce qu'il y a de plus attendrissant qu'une maman en train d'allaiter son enfant ? Qu'une petite... L'autre jour, par ma fenêtre, je voyais une chatte qui appelait ses petits, parce qu'il y en avait un qui s'était éloigné un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de plus attendrissant que d'imaginer qu'il y a, dans ce regard entre le bébé et la maman, une évidence ? Ce quelque chose qui ne se contrôle pas, qui ne se mesure pas, qui vient et qui est là. Évidemment, c'est terriblement attendrissant et cette idée est, sur bien des points, bouleversante. Tellement bouleversante qu'elle a été partagée par Charles Darwin, qui a totalement partagé cette conviction-là, et qui a expliqué, en fait, tout au cours de son approche, l'instinct maternel l'intéressait beaucoup, et il expliquait, en fait, qu'il l'avait tellement observé dans la nature, et observé chez les femelles, donc chez les animaux, qu'il pouvait tout à fait, on pouvait en déduire que ce qui se passait chez les animaux se passait aussi chez les femmes. Et qu'un des points qui allait d'ailleurs lier l'animalité de l'humanité, c'était l'instinct maternel. Donc l'homme a envie de se démarquer de l'animal, mais sur l'instinct maternel, il y aurait une évidence. Darwin va même jusqu'à citer le chagrin des guenons lorsqu'elles perdent un bébé. Ou au contraire, quand parfois elles adoptent en fait un bébé, un petit singe orphelin, il écrit « Une femelle babouin a le cœur si grand qu'elle adopte non seulement les jeunes singes d'autres espèces, mais vole aussi parfois les chiens et chats qu'elle emporte partout avec elle. » Donc Darwin est fasciné par cet élan, par cette pulsion, par cette puissance qu'a la femme à tout de suite plonger, que ce soit son enfant ou non d'ailleurs, à plonger vers cet instinct maternel. Et donc, tout d'un coup, la femme, la féminité, est liée encore une fois à cette question de la maternité. C'est-à-dire que même une femme qui n'est pas encore mère contiendrait en elle... à vous de vous le représenter comme vous le souhaitez d'ailleurs, contiendrait en elle cet élan, cet instinct maternel situé quelque part. Alors selon plusieurs recherches d'ailleurs, on l'a situé à différents endroits, hein. Parfois l'utérus, parfois le ventre, parfois la tête, il navigue cet instinct maternel. Mais donc toutes les femmes auraient en elles cet instinct. L'affection maternelle comme un des instincts sociaux les plus puissants, les plus forts. Et donc, c'est cet instinct maternel qui conduit les mères, à la minute même où elles sont enceintes, et à la minute, et encore plus quand on leur met leur bébé dans les bras, de nourrir, laver, consoler, défendre. Voilà, on pourrait s'arrêter là, thèse de Darwin, le lien entre les animaux et la femme, l'instinct maternel contenu chez toutes les femmes, et ce serait le point de ralliement de la féminité. Sauf que bien entendu, vous vous doutez bien que cette thèse qui... Alors encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'elle est totalement fausse. Vous allez voir, tout ce que je présente est aussi un appel à la nuance. Il ne s'agit pas de dire c'est noir ou blanc, mais il s'agit d'interroger les concepts, de les déplier, d'aller un petit peu les questionner, d'aller les gratter. Et évidemment, la thèse de Darwin sur l'instinct maternel et sur l'évidence de la femme est une mère semble sur bien des points un peu complexe. Pour quelle raison ? Alors, la personne qui va le plus s'opposer à Darwin, ça va être, en tout premier lieu, Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, en 1980, écrit un livre qui va faire beaucoup, beaucoup parler de lui, et sur bien des points qui va être un livre assez choc, qui va s'appeler, ce livre s'appelle « L'amour en plus ». Et dans « L'amour en plus », Elisabeth Badinter propose la thèse suivante, c'est que l'instinct maternel, loin d'être une donnée évidente, ce truc qu'on aurait en nous, que toutes les femmes auraient en nous, loin d'être une donnée évidente, au contraire, l'instinct qui s'inscrirait en fait dans nos gènes, hein, parce qu'on n'est pas loin de penser que c'est quasiment une forme dans notre ADN, l'instinct maternel. Eh bien, au contraire, pour Elisabeth Badinter, l'amour maternel, loin d'être inscrit dans nos gènes, serait au contraire profondément modelé par le poids des cultures. Alors, pour étayer sa thèse, hein, c'est pas juste une opinion, hein. Au même titre que Darwin utilisait l'observation, et donc l'observation des animaux au cours de ses voyages, l'observation des femelles au cours de ses voyages, Elisabeth Badinter va aussi étayer sa thèse. Et elle va l'étayer, elle va la solidifier, à travers des regards, notamment des regards historiques. Et donc, elle va reprendre beaucoup de travaux sur l'enfance. Et montre qu'en fait, en travaillant sur l'enfance et en travaillant sur le regard qu'on a porté sur l'enfant, c'est un sujet que je connais bien parce qu'en éducation, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup, hein, parce que le regard sur l'enfance est énormément modifié au cours des siècles derniers. Et en travaillant cette idée-là, ce regard sur l'enfance, Elisabeth Badinter s'aperçoit qu'en fait, l'idée d'amour maternel est une idée relativement neuve en Occident. Et qu'en fait, elle apparaît précisément, c'est ce qu'elle dit dans L'amour en plus, hein, qu'elle apparaît précisément aux alentours de 1750-1760. Alors vous allez me dire, c'est hyper bizarre de parler d'apparition de l'instinct maternel, mais je vais préciser notre parcours. En fait, juste avant cette époque, parce qu'il y a un contexte, c'est pour montrer qu'il y a un contexte économique et politique qui sous-tend l'instinct maternel. Avant cette époque, du fait du nombre d'enfants qui mouraient en bas âge, d'un très fort taux de mortalité infantile, avec des contraintes économiques très fortes qui pesaient sur la femme, notamment dans les milieux les plus pauvres, où la femme était effectivement obligée de travailler jusqu'au bout, parfois, notamment dans les milieux paysans, et donc effectivement d'être dans un effort permanent, et puis avec une santé qui était totalement différente, un suivi de grossesse différent, mais aussi une santé qui n'était pas la même qu'aujourd'hui, et bien évidemment, beaucoup de des conditions d'hygiène différentes, beaucoup de mortalité infantile. Et surtout, non seulement, un, beaucoup de mortalité infantile, deux, aussi, on considérait l'enfant, et alors ça c'est passionnant, je pourrais vous faire une réflexion sur la philosophie de l'éducation, parce que si vous saviez comment on considérait l'enfant, l'enfant était quand même considéré jusqu'aux nouvelles pédagogies, hein, donc jusqu'à Rousseau, qui est le premier à avoir placé un autre regard sur l'enfant, l'enfant était considéré comme une version, une ébauche grossière de l'être humain. Il y a même des textes qui le présentent comme une masse informe. Un enfant comme une masse informe. Donc vous imaginez bien, reprenons le fil, que si l'enfant est considéré comme une masse informe, l'instinct maternel et cet élan et cette évidence de soin, de douceur, on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même regard. On ne valorise pas du tout le lien entre la mère et son enfant comme on peut le valoriser aujourd'hui, puisque l'enfant n'est lui-même pas considéré de la même façon. Donc évidemment, l'instinct maternel, c'est pour valoriser un lien qui est presque aujourd'hui un lien sacré entre la mère et l'enfant. Mais le lien est sacré parce que l'enfant est profondément considéré comme un être qu'il va falloir protéger. Et donc cet instinct sert à le protéger, à prendre soin de lui, à l'amener à grandir et à s'épanouir. Alors que si on considère que l'enfant est une masse informe qu'il faut redresser, parce que c'est vraiment une ébauche d'être humain, bah forcément l'instinct maternel qui en découle n'est pas le même non plus. Donc effectivement, la mortalité infantile, donc une forme de détachement, plus la considération pour l'enfant, font qu'en fait, l'attention portée aux petits n'était pas du tout si forte qu'aujourd'hui. Il y avait en plus, pour ajouter un peu au tableau, il y avait également beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants aussi laissés en nourrice, c'est-à-dire on les laissait vraiment à des nourrices, c'était pas une nourrice qui vient à la maison, hein, c'était vraiment laissé, élevé par des nourrices. Donc beaucoup d'enfants laissés aux nourrices, et les mères, du coup, le lien entre la mère et l'enfant n'était pas du tout le même, était beaucoup, beaucoup plus distancié, et parfois beaucoup plus brutal qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si on plonge, bon là ça pourrait durer des heures ce live, mais si on plonge dans la littérature, et dans souvent, c'est curieux, quand je le fais avec mes élèves, ils sont souvent troublés des liens parents-enfants, en fait, quand on prend des textes d'autres siècles. Où souvent, la présence des parents, mais même les liens familiaux, ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et bien, c'est aussi ça qu'interroge Elisabeth Badinter. C'est qu'en fait, c'est seulement à la moitié du XVIIIe siècle, donc finalement d'une manière très récente, que le rôle de la mère est tout d'un coup valorisé. Et puisque le rôle de la mère est valorisé, eh bien, il faut lui attribuer une sorte de pouvoir. Le rôle de la mère est valorisé, et donc son rôle vis-à-vis de l'enfant, l'enfant lui aussi est valorisé. Et donc, tout d'un coup, eh bien, c'est au moment où... Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, hein, c'est la thèse d'Elisabeth Badinter, ça ne veut pas dire que son regard est complètement juste, mais on avait la thèse de Darwin, maintenant Elisabeth Badinter. Elle dit, au moment où la femme commence à pouvoir s'émanciper, intellectuellement et professionnellement, on la ramène à son rôle, à la maison et au foyer, en valorisant la maternité. Donc vous voyez la stratégie sociale qu'il y a derrière. C'est-à-dire que pour remettre la femme à sa place, donc dans l'espace du privé, dans l'espace de l'intimité, et pas dans l'espace public, eh bien il faut lui donner un rôle au foyer, dans le foyer. Et si ce rôle passe par... elle met ses enfants en nourrice, donc bah forcément, elle a plus de temps. Donc, bah forcément, elle va dans la sphère publique. Donc, il faut la ramener au foyer et donc valoriser la maternité. Regard intéressant entre Darwin et cette puissance en nous, avant même qu'on ait des enfants, d'instinct maternel, et en fait Elisabeth Badinter, qui montre que dans l'histoire, l'instinct maternel est très tardif et que la valorisation de l'instinct maternel répond en fait à des conditions sociales, économiques, politiques. Voilà un peu le tableau. Donc là, je vous ai présenté, j'espère clairement, les deux extrémités. Les chemins les plus différents possibles. Aujourd'hui, l'instinct maternel est énormément travaillé, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment une autoroute, hein, dès qu'on travaille en philosophie, en anthropologie, en sociologie, en théorie du genre, il y a toujours un moment où l'instinct maternel revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui, je propose aussi le regard en sociobiologie. Alors la sociobiologie, c'est une sorte de discipline un peu hybride qui travaille à la fois, en fait, qui travaille la biologie, mais avec un regard sociologique, c'est-à-dire toujours en croisant. Qui veut qu'en fait, la sociobiologie, c'est l'idée de dire que tous nos comportements sociaux, donc les soins, la conduite, tous nos comportements, sont aussi ancrés dans des dispositifs biologiques. Donc pourquoi ce regard est intéressant? Parce que ça croise. C'est comme si, grossièrement, on allait croiser Darwin avec Badinter. Est-ce qu'on peut, en les croisant l'un et l'autre, tirer quelque chose, avoir un regard peut-être un peu plus juste et un peu plus aiguisé sur cet instinct maternel? Parce qu'entre Darwin qui nous dit « on a forcément l'instinct » et Elisabeth Badinter qui dit « ce n'est qu'une construction sociale », on se sent un peu perdu. Parce qu'au fond, on peut tout à fait avoir, nous, alors soit on peut ne pas ressentir l'instinct maternel et se dire que c'est quelque chose qu'on travaille, mais à l'inverse, on peut aussi se dire « mais si, on a une pulsion en nous qui est une pulsion d'amour, de soins évidente ». Donc on est un peu perdu. Donc regardons le regard de la sociobiologie. Il y a une sociobiologiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarah Blaeffer-Hird, qui, elle, travaille justement les dispositifs biologiques dans les espèces animales. Et en fait, elle va s'attaquer au préjugé très machiste du darwinisme. Dans un livre qui s'appelle « La femme qui n'évoluait jamais », qui est un livre des années 80, hein, il est publié aux États-Unis au milieu des années 80, elle conteste vigoureusement cette thèse darwinienne selon laquelle la nature aurait justement assigné les femmes un rôle de machine à pondre. Elle emploie cette expression, hein, c'est pas moi. De machine à pondre pour justement les rendre soumises et pour justifier que ce ne soit pas elle qui aille, encore une fois, hein, c'est l'idée d'aller vers l'extérieur, donc qui aille chasser, etc., etc. Donc les mères soumises, les femmes soumises et les mères dévouées. Elle utilise cette double figure. Et dans un autre texte qui s'appelle justement « Les instincts maternels », elle défend une thèse intéressante parce qu'une thèse qui va à la fois, qui vous allez voir, montre qu'en fait l'amour maternel est une construction sociale. Mais il ne fait aucun doute que cette construction sociale d'amour maternel, dont parle Badinter, c'est-à-dire c'est la société qui a valorisé et du coup qui nous met en tête aussi cet instinct, mais cette construction sociale, elle est tout de même appuyée par des mécanismes biologiques. Alors je m'explique. Vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus nuancé que le propos de Darwin. Ces mécanismes, explique l'auteur, ne sont pas du tout des sortes de pulsions implacables, comme manger ou dormir. Donc c'est pas du tout cette puissance en nous qui fait que notre instinct prédomine sur tout le reste. Absolument pas. C'est qu'il y a une cascade de logique qui fait qu'on rencontre de l'instinct maternel. Et donc, en fait, les chercheurs ont mis évidence dans le cerveau une zone spécifique du cerveau qui stimule les comportements éducatifs. Alors, je vous explique, il y a plein d'études hein, où avec des souris, où on enlève un gène, où on remet le gène, etc. Mais l'idée à retenir, au-delà de la complexité des études biologiques, c'est qu'il y aurait un élément, en fait. C'est l'odeur des petits qui déclenche l'activation d'un gène dans le cerveau. L'odeur des petits déclenche un gène, l'activation d'un gène dans le cerveau. C'est donc, il n'y a pas l'instinct maternel qui est immédiat, il y a une forme d'intermédiaire qui produit des hormones spécifiques et qui donne une réaction maternelle. Donc là, c'est déjà un peu plus intéressant que chez Darwin. Bah justement, et le rôle des hormones, bah j'en viens exactement à ça. Et donc, tout d'un coup, ça participe en fait à une production d'hormones qui stimule la réaction maternelle. Donc, l'élément intermédiaire, cette odeur des petits, il est à prendre en compte. Alors, je pense que si vous avez déjà, tous les gens qui ont été, on l'entend souvent, pourquoi il ne faut pas toucher les bébés ? Les bébés chats, les bébés animaux, à la ferme, on nous dit toujours, moi je me souviens très bien, petite, j'allais dans une ferme et il ne fallait absolument pas toucher les tout petits lapins qui venaient de naître. Pourquoi il ne fallait pas les toucher ? Et alors d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que j'adore cette idée, eh bien on dit beaucoup, de plus en plus, d'ailleurs c'est ce qu'on dit pas mal, on a mis en place une formation 0-3 ans à la pédagogie Montessori en ligne, et une des choses qu'on dit, c'est ce serait bien que les gens touchent pas trop les bébés à la naissance. Enfin, touche pas trop, à part les parents, mais que tous les visiteurs ne s'imprègnent pas, en fait, du bébé, ne prennent pas tout le temps le bébé dans les bras. Et donc, bref, mais ça, on en reparlera si vous le souhaitez. Et donc, en fait, pourquoi faut pas toucher les bébés, notamment les bébés animaux ? Parce qu'imprégnés d'une odeur étrangère, ils ne sont plus reconnus par leur maman. Et du coup, elles risquent de s'en désintéresser, voire même de les tuer. À l'inverse, si l'odeur est appliquée à un bébé d'une autre espèce, mettons une maman chat qui trouve un bébé lapin, eh bien elle peut totalement s'en occuper, s'attacher à lui, s'attacher et en prendre soin comme si c'était le sien. Donc là, et alors il y a plein de théories, hein. Les sociobiologistes adorent, moi je suis bouleversée généralement quand je vois ça d'ailleurs, il y a une vidéo d'une femelle lion qui s'occupe d'une petite antilope, alors que normalement c'est sa proie, mais en fait elle l'a eu juste tout bébé, et elle s'en occupe exactement comme si c'était un lionceau. Donc il y a ce premier déclencheur, qui est en fait l'intermédiaire. Donc l'instinct maternel n'est ni cette puissance en nous, de la féminité, blablabla, ni une pure construction sociale, mais un entre-deux qui serait en fait un déclencheur hormonal. En fait, l'odeur comme un déclencheur hormonal. Donc là, c'est beaucoup plus, comment dire, j'aime beaucoup cette idée parce que c'est non seulement, c'est beaucoup plus ouvert. Et beaucoup plus, il y a beaucoup plus de place aussi pour la femme là-dedans et aussi pour une diversité de la maternité d'ailleurs. Et donc, autre mécanisme déclencheur du comportement maternel, il proviendrait, toujours selon les sociobiologistes, de la prolactine, qui est donc l'hormone qui produit la lactation chez les jeunes mères. Et la montée de lait déclencherait en fait des fonctions, des pulsions maternantes. Et il arrive, et c'est une des raisons d'ailleurs intéressantes, il arrive que des femmes qui n'ont jusqu'alors pas spécialement éprouvé cet instinct et des femmes qui n'ont pas spécialement ressenti cette pulsion ressentent effectivement un élan particulier dans le soin au moment où ils changent à la naissance de l'enfant. C'est-à-dire ressentent tout d'un coup, alors c'est pas tant pendant la grossesse ou c'est pas tant une construction de l'esprit, mais tout d'un coup, cette envie, en fait, au moment justement de la montée de lait, de prendre soin. Et ce sentiment, en fait, de responsabilité et d'appartenance. Donc, en fait, on se rend bien compte que, j'essaye d'être claire, hein, mais que les hormones, les odeurs et les gènes sont en fait des mécanismes biologiques qui encouragent les mères à s'occuper des petits. Donc cet intermédiaire, ça encourage les mères à s'occuper des petits. Mais pour autant, et il faut avoir une lucidité du propos, pour autant, ces mécanismes biologiques, est-ce qu'ils suffisent à faire en sorte que toutes les mères du monde soient attentives et attentionnées? Ce serait réducteur que de penser qu'on est simplement dirigé par nos hormones et qu'il suffit d'avoir une odeur particulière ou une montée de lait pour tout d'un coup dissiper toutes les peurs, toutes les craintes, tous les mécanismes psychiques liés à la maternité. Et il y aurait quelque chose de heureusement, les hormones sont fondamentales en nous et il ne s'agit pas de les négliger, mais il s'agit de dire qu'il y a aussi il y a d'autres perspectives à avoir. Et donc, après avoir pris ces bases biologiques, hein, mécaniques, hormonales, on se rend bien compte qu'il faut creuser. Sinon, il n'y aurait pas d'infanticide, il n'y aurait pas de maltraitance, il n'y aurait pas de tout ce qu'on peut... et d'ailleurs, cette sociobiologiste, hein, va beaucoup travailler la question de l'infanticide pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, elle a été une des premières à montrer l'importance de l'infanticide aussi dans le monde animal, notamment chez les scarabées, chez les araignées, chez les souris. Même chez les hippopotames, chez les écureuils, dans le règne animal, il y a aussi des infanticides. Et donc, l'infanticide est aussi évidemment présent dans les sociétés animales et aussi présent dans les sociétés humaines. Et dans beaucoup de sociétés primitives, on voit, c'est une pratique courante, notamment lorsque l'enfant est handicapé ou lorsque il y a aussi, bon, il y a pas mal de théories anthropologiques, hein, où on a même eu des infanticides sur les filles, dans certaines tribus, etc. L'abandon aussi est répandu. Et donc, que ce soit l'infanticide ou que ce soit l'abandon, ça vient contrecarrer cette simplification de l'instinct maternel et de l'instinct hormonal. Et là, comme d'habitude, je vous donne les cas les plus, les plus extrêmes, hein, mais au-delà de ça, il y a aussi l'idée de se dire d'enlever la culpabilité quand on n'a pas nécessairement cet élan au moment où l'enfant vient de naître. On a beau avoir de l'amour, en prendre soin, mais par moments, cet élan peut prendre un peu de temps. C'est-à-dire cette connaissance de cet individu si singulier qu'est un bébé qu'on vient de mettre au monde, cette connexion entre lui et la mère n'est pas forcément si évidente. Donc que ce soit l'extrême infanticide, l'extrême abandon, ou que ce soit juste ce temps de la rencontre, ça met bien en péril cette idée que l'instinct maternel soit irrépressible et soit même hormonalement une logique purement hormonale. Et donc, il faut travailler encore plus cette question-là. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous permet de nuancer entre ce qu'est l'amour maternel et l'instinct maternel. Parce que jusqu'à présent, on a tendance à confondre les deux. L'amour maternel ne vient que de la mère, c'est-à-dire ne vient pas que de la mère, il suppose une intervention active de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour maternel, contrairement à l'instinct qui est quelque chose de l'ordre hormonal, l'amour maternel, c'est une rencontre entre deux individus, entre la mère et son bébé. Et c'est là, en fait, où il se joue quelque chose de beaucoup plus intéressant, peut-être, que cette question juste d'instinct maternel qui est présent ou pas, qui est juste un réflexe hormonal. C'est que l'instinct maternel, on est dans l'ordre du biologique. L'amour maternel, on est dans l'ordre d'une théorie de l'attachement. Et que la théorie de l'attachement, au contraire, se construit, se travaille, s'apprend. La théorie de l'attachement prend du temps. C'est pas immédiatement. On peut avoir cet instinct, mais on peut aussi avoir une terreur, un vertige, une peur, des frissons, ne pas savoir quel rôle jouer, ne pas savoir comment faire, ne pas être totalement perdu. Et cet amour maternel, il se construit à deux, voire en famille, voire à trois, voire avec aussi les frères et sœurs. L'amour maternel, il prend le temps justement de se tisser, de se construire. Qu'on ait adopté des enfants, qu'on les ait conçus, et quelle que soit la manière dont on les ait conçus d'ailleurs, et quel que soit le contexte de naissance. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'instinct maternel, c'est pas un programme infaillible. C'est pas juste, justement, cet élan et cette connexion, et hop, on devient mère, et hop, on a l'instinct, et hop, on sait faire. L'instinct maternel est du domaine du biologique, et en vertu des hormones, l'amour maternel, au contraire, ne répond à aucune conclusion hâtive, ne répond à aucune norme, et est une construction qui parfois, et ça c'est très intéressant, et là on est beaucoup plus dans le domaine, on est à la fois dans le domaine philosophique, mais aussi dans le domaine psychique, on est dans une construction qui parfois met des mois, des années de découverte de l'autre. Et là vous voyez, quand je disais tout dépend du regard qu'on porte sur la mère et qu'on porte sur l'enfant, et bien tout d'un coup justement on cesse d'enfermer et la mère et l'enfant dans des constructions sociales. Et on les laisse juste l'un et l'autre cheminer comme deux individus singuliers qui portent une histoire, qui portent quelque chose qui les précède, qui ont des sens, qui ressentent, qui vivent, qui entendent. Et on les laisse cheminer l'un et l'autre dans la rencontre et dans la connaissance de l'un et l'autre. Donc l'amour maternel me semble beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant aussi, et surtout mille fois plus ouvert que cet instinct maternel qui est présent ou non. Et puis hormonalement, il y a plein de choses en plus qui rentrent en jeu, selon qu'on ait des traitements, selon qu'on ait... Enfin bon, il y a plein de possibilités en fait, autres que la biologie. Donc voilà, je vous ai présenté un peu rapidement ce chemin à travers l'instinct et l'amour maternel. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une ode à la connaissance et à l'apprentissage. Rien n'est jamais immédiat. Et même si à la minute où on met au monde son enfant, bien sûr qu'on ressent, ça ne veut pas dire, quand je dis l'amour maternel se construit, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas au moment où il naît. Mais ça veut dire que comme tous les rapports humains dans la vie, ils sont à l'aune du temps et de la rencontre qui nous transforme. Et parce qu'elle nous transforme, elle s'apprend. Et donc, comme tout, les choses s'apprennent. S'apprennent dans la confiance, dans le respect et dans le regard de l'autre. Donc vraiment, profondément, faites-vous confiance. Il n'y a pas de... Il y a non seulement pas de mère parfaite, mais il n'y a aucun bouton qui fait que tout d'un coup, on nous appuie sur le ventre, sur la tête ou sur l'utérus en nous disant « Toi, tu seras une mère comme ceci ou comme cela. » Non, il y a juste un chemin. Chacun a le sien, chaque famille, chaque histoire. Voilà, je voulais vous présenter ceci et vous dire que l'amour est multiple et sonore chaque jour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à Marie pour ces jolies parenthèses. Et je serai heureuse de vous retrouver vendredi prochain pour un autre sujet au cœur de la philosophie de la maternité. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et à toutes les mamans qui en ce moment attendent un bébé ou viennent d'en avoir un, vraiment profondément, écoutez-vous, faites-vous confiance et tout ira bien. Bonne journée.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. À très bientôt.